Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Je m'imagine, qu'est-ce qui aurait arrivé si la femme samaritaine qui était au puits, qui avait eu 5 maris, puis le 6e, c'était pas son mari, que Jésus y aurait dit, il aurait commencé avec ça. Là, je vois que t'es pas marié, faudrait que tu te mettes en règle, puis après ça, on jasera. Qu'est-ce qui aurait arrivé avec cette femme-là? Qu'est-ce qui aurait arrivé avec cette histoire? Hein? Arrêtez, fini là, hein? Elle n'aura pas été au village pour dire, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, ça me fascine de voir, dans la formation de disciples, il y a une étape où Jésus dit, viens et vois. Puis à un moment donné, dans la formation de disciples, Jésus dit, viens et meurs. Au début, c'est, viens et vois. Venez et voyez celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est qui? C'est Nathaniel, c'est son André, je pense qu'il va voir Nathaniel, puis il dit, hey, viens voir, viens voir, c'est lui le Messie, tu sais. Au début, c'est viens et vois, puis plus que tu apprends à connaître le Seigneur, plus que c'est viens et meurs. Puis, l'appel du disciple, c'est à quelque part pas de mourir sur une croix, mais c'est certainement, Jésus a dit, si tu veux être mon disciple, il faut que tu prennes ta croix, que tu te renies toi-même, puis que tu me suives. Donc, il arrive à un endroit dans ma vie chrétienne où c'est pas juste qu'est-ce que Dieu peut me donner, mais c'est ce que je peux perdre, c'est ce que je peux, qu'est-ce que je devrais laisser de côté pour lui. Tu sais. L'Évangile, elle commence pas avec ça. L'Évangile, elle commence avec « viens et vois ». Et tu vois comment Dieu est bon, tu t'aperçois que ce que tu voulais garder, c'était quelque chose qui te satisferait pas, que celui pourrait te satisfaire. Alors, Jésus a commencé avec la femme au puits, puis il a dit, si tu me connaissais, tu m'aurais demandé à boire, puis tu aurais plus soif. Puis elle, ça aurait fait son affaire, parce qu'elle allait puiser sur l'heure du midi, parce qu'elle était en concubinage, puis c'était pas correct. Et dans ce temps-là, c'était socialement pas accepté, fait qu'elle allait sur l'heure du dîner, quand personne n'était trop là, puis là, elle allait chercher son eau, puis elle s'en allait, puis elle a dit, comment je pourrais ne plus venir à ce puits-là? Fait que c'était une bonne nouvelle pour elle de plus venir au puits, tu sais. Mais Jésus lui parlait de l'eau qui coulerait en elle et qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Il lui parlait d'une autre eau. Alors, Jésus lui a parlé de lui. Il a donné une connaissance de lui-même. Et il lui a dit qu'un jour, les adorateurs adoreraient en esprit. Et qu'il y aurait une qualité d'eau qui viendrait épancher sa soif, qu'elle n'aurait plus soif pour aller de conjoint en conjoint. Ça allait beaucoup plus que juste l'eau, hein. Jésus, il faisait une leçon d'objet, on pourrait dire. Donc aujourd'hui, je vais parler du Saint-Esprit et du travail intérieur de la grâce de Dieu dans nos vies. C'est un sujet important, le sujet du Saint-Esprit, parce que dans le fond, si on comprend pas bien le travail du Saint-Esprit, qui se divise en deux grandes sections, on va regarder notre marche, puis on pourrait même douter que le Saint-Esprit habite en nous. On pourrait penser qu'il y a des choses que Dieu fait de façon conditionnelle, elles sont conditionnelles. Je vais parler de deux aspects du Saint-Esprit aujourd'hui. Je vais vous parler, comme j'ai commencé à en parler la semaine passée, j'ai parlé que le Saint-Esprit était le sceau et l'habitation. Il habitait dans notre vie. Mais l'autre aspect que je vais parler aujourd'hui, plus vers la fin de mon message, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Et donc, en tant que formateur de disciples, en tant que disciples qui sommes appelés aussi à en faire des disciples, on a deux choses qui sont importantes à comprendre. C'est qu'on forme des chrétiens qui doivent comprendre qu'ils sont devenus l'habitation de Dieu en esprit. Et nous formons des chrétiens qui ont un défi de marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. La première, c'est une action du Saint-Esprit, celle de venir habiter, de sceller le croyant. C'est une chose qui est une réponse du Saint-Esprit à Jésus-Christ. le Saint-Esprit vient habiter le croyant en réponse à l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est reçu quand on a cru et c'est inconditionnel. C'est quelque chose qui est comme scellé. C'est quelque chose qui est fait. La deuxième, c'est l'action du Saint-Esprit en réponse à la marche du croyant. Donc, l'habitation du Saint-Esprit en moi est une réponse à l'œuvre de Christ que je reçois quand j'ai cru. La deuxième, qu'on va voir aujourd'hui, à la fin de mon message, c'est la réponse du Saint-Esprit à ma marche quand que moi je marche par la foi. Et ça, c'est donné de manière conditionnelle. Donc, la plénitude du Saint-Esprit est conditionnelle à ma foi, à ma marche dans la foi. L'habitation et le sceau du Saint-Esprit est une réponse à Jésus-Christ. Quand j'ai cru, ça m'a été donné de façon sans condition, autre que d'avoir cru. Je vais, ensemble avec vous, on va regarder comment la Trinité est impliquée dans l'habitation du Saint-Esprit dans notre cœur. On va regarder historiquement, puisque c'est un fait et que c'est quelque chose qui ne peut être changé, mais on va regarder les faits qui appuient le fait. Le fait qui appuie le fait. Il y en a des faits là-dedans. Justement, c'est pas un feeling. L'habitation du Saint-Esprit est un fait qui est en réponse à l'œuvre tout accomplie de Christ et qui a été reçue quand on a cru. La semaine dernière, j'ai parlé du sceau. J'ai dit que le sceau, c'était la marque de propriété du propriétaire. Et ce qui est génial, Ben, dans ce que tu as apporté à propos de la pièce de qui est l'image, donnée à qui est l'image, OK? Qu'est-ce qui n'est pas dit dans ce texte-là? C'est vous êtes l'image de qui? Vous portez l'image de Dieu. Nous sommes créés image de Dieu. Donc, donnez l'image, la pièce à qui vous devez la pièce, donnez à l'image à qui ça appartient. Et qu'est-ce qui n'est pas dit, mais qui est insinué certainement, c'est ce que vous portez comme image, bien, à qui appartient cette image-là? Quasiment comme si Jésus avait dit « Donnez-vous à Dieu ». Donnez votre argent à qui appartient l'argent, à cause de l'image, mais donnez ce qui est à Dieu. Et ah oui, Jésus a dit, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui porte l'image de Dieu? Rien d'autre. Il n'y a pas de pièce de monnaie qui porte l'image de Dieu. Il y a une seule chose qui porte l'image de Dieu, c'est nous qui sommes image de Dieu. C'est comme s'il disait, donnez l'argent à qui appartient cet argent-là et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donnez-lui l'empreinte que vous êtes de lui. Mais en plus, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous portons l'empreinte de Dieu parce que le Saint-Esprit est l'image, on pourrait dire, il n'y a pas mieux représentant que lui pour être l'image du propriétaire. Et donc, le disciple, c'est oui, viens et vois, mais viens et crois, mais après ça, c'est viens et meurs. C'est-à-dire, meurs et donne-toi. En tout cas, on va voir ça plus tard. C'est pas de ça que je veux parler, je veux parler du sceau. Je veux parler que c'est irrévocable. Donc, le Saint-Esprit, il est le sceau du propriétaire, qui montre que tu appartiens à Dieu parce que tu l'as reçu. Puis on a vu la semaine passée qu'il était un gage aussi, que Dieu donnait un gage comme pour dire, ça, c'est pas envers lui qu'il le fait, ni envers les autres, c'est envers toi. Il a placé en toi son Saint-Esprit comme un gage qu'il va te faire le paiement final aussi, qu'il a fait une transaction avec toi de te racheter, mais qu'il te racheterait finalement complètement et que tu serais dans son royaume un jour. Donc, c'est un des arguments les plus forts pour la sécurité éternelle, c'est que le Saint-Esprit va venir et il va habiter éternellement en vous. On a vu ça la semaine passée. Et donc, il habite dans le cœur du croyant comme une garantie que vous serez aussi un héritier dans le monde à venir. Et cette œuvre-là est la réponse du Saint-Esprit à l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus avait dit, on l'a vu la semaine passée, Jésus a dit, il est avantageux que je quitte parce que je vais vous envoyer un autre consolateur. Quand Jean-Baptiste a baptisé, lui, il dit, « Moi, je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, est plus puissant que moi, et lui, il va faire quoi? Il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. » Je veux parler surtout de la première partie. Il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Un des grands ministères que Jésus aurait, c'était d'être l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Deux, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais je vais parler surtout du baptême du Saint-Esprit. Donc, trois grands aspects. Mais, premièrement, être l'agneau de Dieu. Deuxièmement, baptiser du Saint-Esprit et de feu. Donc, deux grandes choses ou trois choses. 2 qu'on se concentre aujourd'hui. Il était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 2, il baptise d'esprit. Il y en a un qui précède l'autre, l'un qui vient avant l'autre. Avant de pouvoir baptiser du Saint-Esprit, il doit enlever le péché du monde. Donc, il paye la dette de nos péchés, vient faire le ménage dans le temple, puis ensuite envoie son Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, baptise du Saint-Esprit ceux qui ont été rachetés, ceux que le temple de leur cœur a été lavé, si on pourrait dire. L'Esprit Saint peut venir habiter après que Dieu ait fait un temple saint avec la personne. Donc, on regarde la vie de Jésus-Christ, l'implication du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Le Saint-Esprit est venu sur Marie et le Saint-Esprit viendra sur toi, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu enfanteras le Messie dans Luc 1, 35. Donc, le Saint-Esprit vient sur Marie pour concevoir Jésus-Christ, homme. Ben, Jésus-Christ, homme-Dieu. C'est une erreur de dire que Jésus il était Jésus-homme, puis il était Jésus-Saint-Esprit. Il était pas Dieu, il était pas Jésus-Dieu, puis Jésus-homme. Il était Jésus-Dieu-homme. C'est une erreur que de dire qu'il avait 2 personnes. Il n'était pas 2 personnes. Il était une personne, tel l'homme-Dieu. À Noël, je vais parler de Marie, bienheureuse, porteuse de Dieu. Donc, bienheureuse Marie va être mon thème. Contrairement peut-être à certaines années où je prends Marie puis j'y fais un procès, là, je vais faire attention à elle. Dans le sens qu'elle a été très honorée et la grâce de Dieu qui lui a été donnée a été grande. Et qu'elle avait besoin de ce sauveur-là elle-même. Mais ça va être moins confrontant que certaines années où des fois je prends Marie puis je la mets dans un coin un peu. Et ça devrait donc être moins confrontationnel pour une personne catholique. Et elle devrait quand même y voir là-dedans la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit va venir sur toi, Marie. L'homme du Tout-Puissant va te couvrir. Ensuite, le Saint-Esprit, on le voit, qu'on le voit de façon extravagante. C'est lors du baptême de Jésus. Dans Marc, c'est écrit « une forme corporelle est venue sur Jésus ». Je pense que c'est dans Luc, il est venu comme une forme de colombe, je pense. Il y a eu quelque chose qui s'est dit, les cieux se sont, la voix du ciel s'est fait entendre, la fille d'une voix, la batkal qu'on appelait en hébreu, c'était cette expression qu'on avait quand on entendait une voix qui venait des cieux, s'est fait entendre et il a été dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cette parole qui a été répétée aussi au mont de la transfiguration. Donc, il vient sur Jésus lorsqu'il se fait baptiser. Et Jésus reçoit le Saint-Esprit pour lui-même. Et Jésus va dire un petit peu après, en lisant les Écritures, « Le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc. » Et donc, Jésus reçoit le Saint-Esprit pour lui-même, pour pouvoir guérir les aveugles, guérir les cœurs brisés, à ouvrir la vue à ceux qui sont aveugles. Il reçoit le Saint-Esprit pour lui-même. C'est important. Et dans Actes 10, 38, c'est écrit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus a reçu le Saint-Esprit pour lui-même parce que dans Philippiens, il nous est dit qu'il s'est abaissé et il est devenu comme un simple homme, comme un simple serviteur. Il s'est abaissé, bien que Colossiens 2 nous dit qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Il n'y a pas un petit peu de Dieu en lui. Il est Dieu dans toute son essence. Mais que parce qu'il s'est identifié à nous dans notre nature mortelle, si on pourrait dire, ou notre nature humaine, il s'est identifié à nous, il a fait ses miracles par sa communion avec le Saint-Esprit. Et donc, il a vécu dans une faiblesse volontaire. Comme la note, il a reçu le Saint-Esprit pour pouvoir être fortifié et faire son ministère. Donc, Jésus, dans Hébreux 9, 14, c'est écrit qu'il s'est offert à Dieu par un esprit éternel. Par l'esprit éternel, il s'est offert à Dieu à la croix. Il a été déclaré fils de Dieu par la puissance, par l'esprit de sainteté qui l'a ressuscité. Bon, déclaré fils de Dieu, il n'était pas déjà fils de Dieu? Il y a une déclaration, un peu comme à son baptême, « Celui-ci est mon fils », c'est une déclaration qu'il est le fils de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas avant, ça veut dire que c'est déclaré. Est-ce que c'est déclaré pour Jésus? Ben, Jésus ne savait plus qui était, fait que là, dans le fond, Saint-Esprit, il a dit qu'il était le fils de Dieu. Non, est-ce que c'est pour le Père non plus? Est-ce que c'est pour quoi? C'est pour ceux qui l'ont vu enseigner, qui ont dit qu'il était le Fils de Dieu. Il a entendu dire qu'il était le Fils de Dieu. Il a fait des miracles, il a fait tout ça. Il a dit qu'il était, il avait la prétention d'être celui qui était envoyé par Dieu, qui était le Fils de Dieu. OK, détruisez ce temple, puis en 3 jours, je vais le rebâtir. Puis là, ils ont détruit le temple de son corps. Le 3e jour, il a rebâti le temple de son corps. Il est ressuscité. Et c'est écrit que c'est l'esprit de sainteté qui l'a ressuscité. Pourquoi? Un peu comme dans... C'est quoi le film, là? Aslan? Narnia. Dans Narnia, on voit le lion, à un moment donné, qui donne sa vie pour l'autre. Comment il s'appelle? Edmund? C'est-tu Edmund, celui qui a fait, qui a mangé les gouloums? Pas les gouloums, mais quoi? Ah, les loukoums. Gouloum, c'est d'autres choses, ça. Ah, mon précieux! Je ne l'ai pas tué, non. Alors, c'est... Je suis pas un amateur de ça, mais c'est fun quand même. C'est long. Les loukoums, hein? Il a mangé des loukoums, il a désobéi, il a été en communion avec la princesse de glace, je sais pas quoi, en tout cas. Puis il est devenu un traître dans sa tribu, là, Puis dans le fond, le lion, Aslan, va mourir pour lui. Mais ce que personne ne savait, quand la reine de glace a accepté la transaction, elle pensait qu'elle avait réussi à vaincre l'ennemi une fois pour toutes. Hein. Puis le 3e jour, le lion n'a pas resté mort parce que la règle disait que s'il avait commis aucune faute, dans le fond, il pouvait ressusciter. Donc, c'est une belle image de ce verset-là qui dit que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par l'Esprit de sainteté qui l'a ressuscité. Romains 1. Donc, Jésus-Christ est déclaré Fils de Dieu ou confirmé Fils de Dieu pour nous autres. Il dit, hey, c'est quoi tout ce qu'il a enseigné? Ben, l'Esprit Saint l'a ramené à la vie. Puis s'il l'a ramené à la vie, c'est parce qu'il était sans péché. Et donc, son sacrifice avait été accepté. Il a été élevé dans la gloire et Jésus a reçu le Saint-Esprit à nouveau. Il était dans les cieux et une deuxième fois, il a reçu le Saint-Esprit à nouveau, mais cette fois-ci, il l'a pas reçu pour lui, il l'a reçu pour nous. Dans Actes 2:33, c'est écrit, il a été élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Jésus-Christ reçoit une deuxième fois le Saint-Esprit, une fois qu'il a été élevé dans la gloire et cette fois-ci, il l'a reçu pour le répandre. À un moment donné, il dit, le Père va envoyer le Saint-Esprit en mon nom. Ailleurs, il dit, je vous enverrai le Consolateur. Donc, c'est de sa part que vient le Saint-Esprit. Suite à son sacrifice, c'est l'action du Saint-Esprit en réponse à l'œuvre de Christ. Et c'est par ça que le Saint-Esprit nous est envoyé. C'est l'action du Saint-Esprit de nous remplir parce qu'il vient de Christ à cause de son œuvre tout accomplie pour nous. Jésus-Christ a terminé son ministère d'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde et qui nettoie le temple du cœur de celui qui croit en lui. Et il peut ensuite lui envoyer l'Esprit qui lui a été donné pour le répandre. Et le mot pour répandre, c'est un mot qu'on retrouve dans les généalogies quand que tu vois un tel et de tel, un tel et de tel. Et lorsque je suis allé voir dans le grec, je m'apercevais que c'était quelque chose qui vient de quelque chose d'autre. Et on utilise ce mot pour verser, répandre, quelque chose qui vient de vers quelque chose. Donc, il est entré dans son deuxième rôle de Jean-Baptiste, c'est-à-dire agneau de Dieu, ensuite baptiseur du Saint-Esprit. Jean-Baptiste baptisait d'eau, lui, il baptise du Saint-Esprit. Et donc, il a reçu cette foi pour le répandre pour nous. Et quand il était sur la terre, il prophétisait, « Celui qui croit en moi, dans Jean 7:38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, Jésus y annonçait, prophétisait, que de nous, de ceux qui croiraient, sortirait un fleuve qui jaillirait, jusque dans l'éternité. Où c'est qu'on voit ça, ces images-là, de quelque chose sort, quelque chose qui jaillit? Un rocher de Mériba, peut-être, quand ils ont frappé le rocher puis qu'il y a eu de l'eau qui est sortie? Peut-être. Peut-être que c'est cette roche-là, peut-être cette image-là qui était très claire pour le peuple d'Israël qui n'avait pas d'eau dans le désert. Il ne serait pas supposé de sortir de l'eau de là, puis il y a de l'eau qui est sortie. Je ne sais pas. Mais c'est une source, une chose est sûre, c'est que c'est une source qui vient de l'intérieur et qui ne tarit pas. Et l'eau est souvent, lorsqu'on parle du Saint-Esprit dans la prophétie, comme une bénédiction comparée à de l'eau. Dans Psaume 36:9, tu les abreuves au torrent de tes délices. Hein, dans Ésaïe 44:3, je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près d'un courant d'eau. Donc, Dieu qui promet qu'il va envoyer son Saint-Esprit, qu'il va envoyer son esprit sur une terre qui est desséchée, et qu'est-ce qu'il va faire? On va absorber ça, puis on va porter du fruit. Dans Joël 2, 23, il vous donnera la pluie en son temps, et il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison. Hein? Donc, ça parle de l'effusion du Saint-Esprit dans Joël au chapitre 2, justement. Et nous, dans la Pentecôte, nous avons reçu une prémisse de l'effusion du Saint-Esprit, mais dans le millénium, il y aura cet esprit qui sera, l'Esprit de Dieu qui sera répandu sur toute chair aussi. L'Esprit n'était pas là encore. Dans Jean 7, le texte dit, l'Esprit n'est pas. Je relis juste, il dit ici, c'est Jean qui dit, tu sais, il a dit que l'eau, le Saint-Esprit jaillira de votre sein, comme le dit l'Écriture, hein. Ben, il dit plutôt les fleuves d'eau vive couleront du sein. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore. Ben, pourtant, l'esprit était là à la création du monde. Il est très, très actif chez les prophètes, les rois et les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, mais il n'était pas encore dans le sens où, dans son ministère, d'habiter et de sceller les croyants et d'être une ressource pour eux. Et donc, ça devait venir, il n'était pas encore, il devait venir, et quand ça serait le temps, c'est-à-dire quand Jésus-Christ aurait fini son ministère d'agneau de Dieu, qui aurait été élevé dans la gloire, que son sacrifice aurait été accepté, qui aurait été confirmé comme fils de Dieu sans péché, à ce moment-là, la source intérieure dans le croyant commencerait à jaillir. Puis ce qui est beau, c'est qu'il va jaillir jusque dans l'éternité. Ça vient confirmer encore quand Jésus dit, je vais vous envoyer le Consolateur, là, il va habiter éternellement avec vous. Et il dit, là, dans le verset, qu'il va juste un fleuve d'eau vive qui va jaillir dans le cœur de celui qui croit jusque dans la vie éternelle. Quelle belle image, encore une fois, de la sécurité que nous avons reçue lorsque nous avons cru. Et donc, je vous amène à la Pentecôte. C'est là que naît l'Église. Avant ça, il y avait des croyants qui appartenaient au Père. Ce sera pas. OK. Donc, jusqu'à présent, ceux qui naissaient de nouveau, c'est ceux qui croyaient que Jésus-Christ était le Messie envoyé par Dieu. Une fois que Jésus-Christ était mort, c'est ceux qui croyaient que Jésus-Christ était celui envoyé par Dieu, qui était mort pour leurs péchés, ressuscité pour leur résurrection. Mais dans Acte 2, dans Acte 8 et dans Acte 10, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui étaient déjà croyants, mais qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, parce que l'Église n'existait pas encore. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Et là, on a besoin, en faisant des disciples, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, justement, que le Saint-Esprit a été répandu. Parce que Pierre dit... pas Pierre, mais ici, dans Acte 2, là, c'est Théophile, c'est Luc qui écrit à Théophile. Il dit ceci, je l'ai lu tantôt. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Et le mot pour répandre, c'est encore ce mot-là, c'est encore de verser. Hein? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? C'est passé deux choses. Les croyants sont devenus l'habitation du Saint-Esprit. Et deuxièmement, il a rempli les croyants d'une capacité extraordinaire pour briser, et là, c'est important, pour briser la malédiction des langues. Quand est-ce que les gens ont commencé à parler d'autres langues? Ils ont commencé à parler dans d'autres langues quand les hommes ont voulu faire une unité sans Dieu pour chef. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a divisé les hommes en leur donnant plusieurs langues. C'est la malédiction des langues. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il unit maintenant les gens de toute langue, de toute nation, de toute souche, et il les ramène ensemble sous un chef, Christ. Et les langues ne sont plus un moyen qui va empêcher l'unité des croyants. quelle belle image du corps de Christ. Maintenant, c'est pas dit exactement comme ça. Par contre, théologiquement, je pense que ça m'est permis de faire une application ici. Donc, intéressant. Dieu rassemble des gens de toute nation, de toute tribu, de toute race, puis les ramène ensemble, puis les place sous un chef qui est Christ. Il les unit dans le corps de Christ. Et en fait, avant, ça n'existait pas. Il y avait des croyants qui appartenaient au peuple de Dieu, même s'ils n'étaient pas juifs, admettons, ils croyaient au Dieu d'Israël, ben, ils étaient quand même, ils étaient comme, comment je pourrais dire ça, là? Ils appartenaient au Père, mais là, ils ont été donnés au Fils. Et chaque croyant qui reçoit le Saint-Esprit reçoit aussi une unité avec les autres membres du corps de Christ. Et ensemble, nous sommes le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 13 dit qu'il y a un seul baptême et Dieu nous a baptisés dans un seul corps pour appartenir à Christ, qui est le corps de Christ. Bon. Donc, dans le livre des Actes, parce qu'il y a des croyants qui pensent qu'il faut avoir une deuxième expérience avec le Saint-Esprit une fois qu'on a cru, parce que ces gens-là étaient croyants, puis ont reçu le baptême du Saint-Esprit. OK? En passant. J'ai dit qu'il s'est passé deux choses cette journée-là. La première, ils ont appartenu au corps de Christ. La deuxième, ils ont été utilisés de façon extraordinaire dans leur faiblesse pour parler dans des langues intelligibles, comprises par d'autres humains, afin de briser la différence des langues qui empêchait ces gens-là de croire. Donc, il y avait des gens de différents endroits dans le monde, de l'Asie principalement, qui se rassemblaient 50 jours après la Pâque, à la fête de la Pentecôte. Quel bon moment pour, justement, répandre son esprit, pour aussi donner une capacité surnaturelle. Est-ce que les gars et les filles qui étaient là puis qui ont parlé en langue étaient maudits? Je pourrais parler dans cette langue-là, je pourrais leur communiquer, puis ils étaient là. Faudrait-je apprendre à parler une autre langue pour pouvoir évangéliser? Non. Ils n'ont pas forcé pendant tout. Ils ont commencé à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et ça, c'était d'être rempli du Saint-Esprit. Je vais en parler plus tard de la plénitude. Mais au même moment, ils sont devenus aussi, avant ils ne l'étaient pas. Le jour avant la Pentecôte, ils n'étaient pas l'habitation de Dieu en esprit. Ils étaient des croyants sauvés par grâce, mais ils ne faisaient pas partie de l'Église parce que l'Église n'existait pas. L'Église a existé quand le Saint-Esprit est venu habiter dans le croyant. OK? Donc, qu'est-ce qui a été dit jusqu'à présent? Je vais juste m'enlever un petit peu de chaleur. Il a été dit qu'il y avait deux grandes parties au ministère de Jésus, on pourrait dire trois aussi, que je n'aborde pas. La troisième, c'est baptisé de feu. Ça se trouve à être le jugement dernier, où les personnes qui auront rejeté le Messie, Jésus va aussi être le juge pour leur vie éternelle, pas leur vie éternelle, mais leur immortalité dans le lac de feu. Ce qui a été dit jusqu'à présent, donc deux grandes parties du ministère, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Deuxièmement, celui qui baptise du Saint-Esprit, celui qui envoie son Saint-Esprit pour qu'on devienne son habitation. Donc, on a vu comment le Saint-Esprit a été impliqué dans la naissance de Jésus avec l'ombre du Tout-Puissant qui couvrirait Marie, dans le baptême du ministère qui a été donné pour Jésus-Christ, dans le but qu'en tant qu'homme, bien qu'il soit l'homme-Dieu, s'est abaissé dans ses attributs divins pour fonctionner dans son humanité, il a eu besoin du Saint-Esprit. On a vu que sa mort, c'est par l'Esprit qui s'est offert à Dieu. On a vu aussi que la résurrection, c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts, qui a attesté qu'il était le Fils de Dieu sans péché. On a vu aussi qu'il a été glorifié et que le Saint-Esprit lui a été donné pour que lui, maintenant, c'était pas pour lui qu'il le recevait, c'est pour chacun de vous et moi, afin qu'il soit répandu dans le cœur de chacun de ceux qui ont cru. On a vu qu'il a été donné après que les personnes avaient cru, mais maintenant, aujourd'hui, ça n'existe pas depuis acte 10. Donc, acte 2, c'est arrivé. Acte 8, c'était les Samaritains qui avaient cru, mais qui ne savaient pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Puis, dans acte 10, c'est des types de Jean-Baptiste. Eux autres, ils avaient entendu dire qu'il y avait un Messie qui était pour venir, tout ça, qui les sauverait, mais ils ne savaient pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Okay. Et donc, maintenant, par contre, nous, en 2018, quand on a cru, on est devenu automatiquement l'habitation. On n'a pas besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit comme étant une autre expérience. Il y en a un seul, c'est de devenir l'habitation de Dieu en esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, on l'a reçu pour nous, comme Jésus-Christ dans son ministère. Et le Saint-Esprit est le sceau, donc, qui est en moi comme l'assurance des choses que j'espère. Et dans Romains 5, au verset 5, c'est écrit « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Répandu. Ce fleuve d'eau vive, qu'est-ce qui répand? La femme au puits, elle s'est fait dire la même affaire. Tu vas devenir, si je te donne à boire, tu vas devenir une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Mais c'est quoi ce fleuve-là? Bien, on a un indice dans Romains 5 qui nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit nous communique que le Père nous aime. Quelle belle image encore que la Trinité est impliquée. Christ meurt par amour pour nous, il meurt pour nous. Il nous envoie son Saint-Esprit pour nous montrer que le Père nous aime. Et c'est écrit que c'est un fleuve qui va durer toujours. Dans Romains 8, dit qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Alors regardez la Trinité encore, l'amour de Christ manifesté dans un fleuve qui jaillit dans mon cœur. Et ce fleuve-là, il jaillit quoi? Que le Père m'aime. Et il va demeurer jusqu'à quand? Éternellement en moi. Dans les cieux, à part les anges puis les juifs de l'Ancien Testament et ceux qui avaient cru dans l'Ancien Testament, il y a un autre type de créature, des gens en qui Dieu habite. Dieu habitera jamais dans les anges, Dieu habitera jamais dans les croyants de l'Ancien Testament, mais Dieu habite dans nous, les croyants. Quelle belle participation de Dieu dans nos cœurs. Il y a deux choses à ne pas confondre, donc je disais au début de mon message et je vais arriver dans la deuxième. La première, c'est que l'habitation et le sceau du Saint-Esprit est une réponse à l'œuvre tout accomplie. Quand nous avons cru, on est devenu l'habitation du Saint-Esprit, qui ça va durer jusque dans la vie éternelle, et ça jaillit quoi? Ça jaillit que le Père m'aime. Hein? Et je serai jamais, il n'y a rien qui va me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Deuxièmement, l'action du Saint-Esprit en réponse avec une marche par la foi. Et là, on veut parler de la plénitude du Saint-Esprit. Ça, c'est conditionnel à votre marche, à ma marche. Jésus, lorsqu'il était ressuscité, avait dit que le Saint-Esprit leur serait envoyé. Dans Actes 1, au verset 4, il dit, là, il est ressuscité, il est avec les disciples, c'est juste un peu avant Actes 2, et Luc nous rapporte ses paroles et dit, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Donc, je rappelle qu'à la Pentecôte, deux choses se sont passées. Et parce qu'elles sont arrivées ensemble, les gens vont dire qu'être baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire de parler dans d'autres langues. OK? Non. Baptisé du Saint-Esprit, c'est d'être devenu l'habitation. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui vient au secours de ma faiblesse pour me faire quelque chose que j'aurais pas fait naturellement dans les limites de mes capacités. Quand j'étais au Mexique, je me rappelle, on était en mission au Mexique, puis... Il y a ces jeunes-là qui t'amènent chez eux, puis là, ils te parlent, puis là, ils parlent, ils aimeraient tellement que tu connaisses leur histoire, puis tout ça. Puis là, tu deviens frustré à un moment donné. Tu te dis, si je pourrais juste comprendre sa langue, tu sais. Eh bien, ils n'ont pas vécu ça à la Pentecôte. Ils n'ont pas vécu ça à la Pentecôte parce que le Saint-Esprit leur a donné une capacité qui n'était pas dans leurs limites de leur nature, mais qui était dans les limites de la nature de l'Esprit-Saint qui habite en eux. Et là, ils ont commencé à faire des choses belles, des choses merveilleuses. Ils ont parlé des merveilles de Dieu, le texte dit. Et quel merveilleux jour, quel meilleur jour dans l'année que le jour de la Pentecôte où les gens viennent de partout, justement, puis ils parlent d'autres langues, pour être, Jésus avait dit, vous serez, une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, un, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Hein? Donc, Jean, il vous a baptisé d'eau, moi, je vais vous baptiser du Saint-Esprit avec l'habitation. Deux, une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'était pour faire quelque chose pour Dieu. OK, donc. Puis, dans 1 Corinthiens 14, 22, le parler en langue est un signe pour les non-croyants. Il peut pas être à la fois un signe pour quelqu'un qui croit pas et être un moyen par lequel je m'édifie personnellement. Impossible. C'est soit pour le croyant, puis Paul dit, moi, quand je parle en langue, mon intelligence est stérile. J'aimerais bien mieux parler avec mon intelligence. Donc, Paul, il dit, je parle en langue plus que vous tous. Mais il passait, c'était un évangéliste, c'est-à-dire c'était un gars qui voyageait partout. Il était confronté à cette barrière-là dans les langues. Et ce n'était pas une impossibilité pour lui que de continuer à partager l'Évangile puis d'être compris par ceux qui l'entendaient. Je ne sais pas si quand Paul il parlait, il avait l'impression qu'il parlait en grec puis qu'il était en train de parler dans un autre dialecte, ou s'il savait qu'il était en train de parler, il ne savait pas ce qu'il disait puis que l'autre était édifié. Mais c'est un signe pour les non-croyants. Donc, le baptême du Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, il y a un seul baptême dans 1 Corinthiens 12, 13, j'ai dit tantôt, c'est d'être baptisé dans l'Église. Et il y a cette capacité qui nous est donnée pour jouer de la musique, pour prêcher un message, pour évangéliser mon beau-frère. Une puissance viendra sur vous pour que vous soyez mes témoins. Ça, c'est d'être rempli de la plénitude du Saint-Esprit pour être fortifié dans notre faiblesse. En passant, c'est pas juste pour les autres. C'est aussi pour que tu puisses avoir la victoire sur le péché. C'est pour que tu vives en dehors des pièges que Gilles nous a parlé en introduction ce matin dans le message. C'est un secours. Le consolateur, c'est celui qui vient à côté de toi pour t'aider. On a vu la semaine passée, c'est celui qui vient à côté pour prier avec toi quand tu sais pas quoi demander dans tes prières. C'est celui qui vient fortifier dans ta faiblesse. Jésus s'est mis dans une position de faiblesse volontairement. Nous, on voudrait pas être là dans cette... Lui est allé là volontairement pour dépendre du Saint-Esprit et pour pouvoir opérer avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance qui vient sur nous. Jésus, ailleurs, dit qu'il est une personne. Il l'appelle le Consolateur du même type que lui. Et Jésus, à ce que je sache, était une personne. Il utilise le troisième pronom du singulier « il » pour parler d'une personne. Il a de l'intelligence et enseigne. Il a des sentiments. Il soupire. Ailleurs, dans Romains 15, 30, c'est écrit l'amour de l'esprit. Il y a un amour. Il y a une volonté. Il distribue les dons, les spirituels, comme il le veut. C'est lui qui a nommé les pasteurs à la tête de l'Église, qui les a établis, plutôt, dans Actes. Il fait des actions d'une personne comme enseigner, témoigner, convaincre, conduire, parler, diriger. Et on baptise en son nom. Et est-ce que je cherche s'il y a un nom? C'est une personne. Et donc, il est traité comme une personne qu'on peut tenter, mentir, attrister, blasphémer. Il est une personne. Il n'est pas simplement une puissance. Et lorsque on est invité, et ça m'a frappé quand j'étudiais ce texte, les textes, c'est qu'il y a plusieurs textes qui sont similaires dans le Nouveau Testament. Qui nous a dit d'être rempli de lui plutôt que d'autre chose. Par exemple, dans Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » L'enivrement, c'est boire jusqu'à intoxication. C'est pour ça que prendre des substances qui font que c'est moi qui agissais, mais ce n'était pas moi qui agissais. Si je n'ai pas le contrôle sur mes gestes, c'est de la débauche. Parce que je suis en train de faire agir mon corps sans ma volonté ou sans ma conscience. Et donc, les membres ne sont plus contrôlés par moi, mais par une version altérée de moi. Et dans le texte ici, il dit que la personne est remplie du Saint-Esprit. Excuse-moi. Il dit, soyez pas remplis de vin. Encore une fois, c'est encore un liquide qui est versé. Hein? Un fleuve d'eau vive. Il déversera, il va répandre le Saint-Esprit. Encore, c'est comme un vin, c'est comme un liquide ici qui est montré, mais en fait, c'est que la personne, elle avait l'habitude de se tourner vers une bouteille de vin pour être comblée, ou plusieurs bouteilles de vin. Et là, ici, elle était contrôlée par le vin, on pourrait dire. Et le texte, il dit, « Soyez pas remplis du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » La personne qui est remplie du Saint-Esprit est contrôlée par celui qui l'habite. C'est intéressant que lorsqu'on est placé devant la possibilité de s'enivrer, un croyant est amené, à cause que maintenant il y a un disciple. Avant, c'était « viens et vois ». Mais là, tranquillement, il réalise que son vin à lui, ce qui va combler son vide, c'est la personne du Saint-Esprit. Ce qui va contrôler ses actions, c'est la personne du Saint-Esprit et non le vin. Le choix de ne pas prendre ce qui est mauvais pour lui est remplacé par autre chose. La loi viendrait et dirait, t'es un chrétien, ne bois plus. La grâce, elle vient et elle dit, tu as reçu quelque chose de supérieur au vin pour contrôler ta personne. C'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Donc, pourquoi est-ce que la loi vient nous frustrer? Parce qu'on n'atteindra pas notre objectif. Romains 7, il est en plein milieu du livre de Romains. Romains 1 à 5 nous dit tout ce qui a été fait pour nous. Romains 6 nous montre au Romains 7, en tout cas, il y a ce dilemme-là de la loi. Je vais en parler de Romains 6 tantôt. Je vais finir avec Romains 6. Mais il dit, j'ai la volonté en moi de faire le bien, mais je n'en ai pas la capacité. Il y a des choses que je veux pas faire, que je fais. Puis plus qu'on va mettre des règlements ou des lois, plus qu'on va être frustré à cause des insuffisances de notre propre nature. Et c'est pour ça que cette femme-là, au puits, Jésus, il a pas dit, t'as eu 5 maris, puis le 6e, t'es même pas marié. Fait qu'arrête ça, puis après ça, on marchera ensemble. Il a dit, si tu connaissais celui à qui tu parles, c'est toi qui lui aurais donné à boire. Puis il t'aurait donné à boire d'un autre type d'eau. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ est intéressé à faire? Il est intéressé à nous montrer qu'il a une ressource pour nous qui est bel et bien au-delà de tous nos puits percés qui ne retiennent pas l'eau. Que tout ce qu'on s'est imaginé comme étant le bonheur dans un jardin déchu. Dans notre façon de penser séparée d'avec Dieu, nous, on a pensé que ça nous procurerait le bonheur. Et la vie, et devenir un disciple de Jésus-Christ, c'est de découvrir que ce que Dieu a préparé pour nous, quand vient le temps de choisir le péché, c'est ben meilleur. Et donc, c'est pas un sacrifice que de laisser quelque chose de moins bon pour quelque chose de mieux, n'est-ce pas? Si je vous dis, vous avez pas gagné 10 000, vous avez gagné 1 million. Abandonne ton idée que t'as gagné 10 000, t'as gagné 1 million. Auriez-vous de la peine? Ben, Dieu, quand il dit, laisse ça, il dit, premièrement, il nous dit, regarde qu'est-ce que t'as. T'as la troisième personne en Dieu, le Saint-Esprit, qui est un fleuve qui vient te rassasier, qui est à l'intérieur de toi, soit enivré de lui, plutôt que du vin. Wow! Même dans les thérapies, ils ont compris ça, que si tu remplaces pas la cigarette par un céleri, tu vas capoter. Les gens commencent à grignoter après des céleri ou manger des amandes. L'idée, c'est de te remplacer par d'autres choses, mais ici, c'est pas juste de remplacer par d'autres choses, c'est de remplacer par quelqu'un. Celui de qui on porte l'image et l'empreinte. Donc, le cerveau n'aurait pas sa dose d'intoxication habituelle. Je veux dire, la personne est habituée de prendre un verre ou deux à chaque jour parce que sa journée était stressante, puis tout. Puis au lieu d'aller elle fait juste arrêter. Elle dit, un chrétien, ça boit pas. Mais ça devient des chrétiens frustrés, légalistes. Puis si jamais ils sont capables d'arrêter, ils vont juger ceux qui le font pas encore. Par contre, celui qui n'a pas sa dose d'intoxication habituelle, il peut découvrir en Dieu qu'il y a une abondance en Dieu. Cette personne qui a eu 6 conjoints et pense aller en chercher un 7e peut arriver à se parler puis à dire, je vais marcher par la foi puis je vais croire que ce que Dieu a pour moi est meilleur que ce que je veux pour moi-même. Et donc, quitter celui qui n'était pas son mari n'était pas l'avenue que Jésus a prise pour cette femme-là. C'était si tu connaissais celui qui te parle. C'est de connaître Jésus-Christ, et qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Jésus lui parle de la connaissance de lui-même et de ce qu'il peut faire pour elle qui va lui donner une eau qui va épancher sa soif. La réponse de la plénitude du Saint-Esprit, j'ai dit que l'habitation du Saint-Esprit et le sceau du Saint-Esprit était une réponse à Christ et reçue de façon irrévocable quand on a cru, c'est réglé. La réponse d'être rempli du Saint-Esprit dépend de la foi du disciple. La foi en quoi? La foi en savoir qui Dieu est et ce qu'il peut faire pour nous. Croire que ce que Dieu veut pour moi est meilleur que ce que je voulais pour moi-même. Quand on vient à Christ, il y a beaucoup de gens qui rentrent pas. Et tiens, on dit il y a 25% dans la parabole des terrains. Il y en a 25% qui portent du fruit, les autres non. Puis quand tu regardes les raisons pourquoi ils portent pas du fruit, il y en a que c'est parce qu'ils s'inquiètent pour qu'est-ce qu'ils vont avoir demain. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils veulent avoir qu'est-ce qui est dans le monde. Ils ont le goût des richesses, ils ont le goût de, etc. Mais il y a toujours cette idée de, est-ce que tu crois vraiment que si tu marches avec Jésus, si tu connaissais celui qui te parle, comme disait Jésus à la femme au puits, qui va te donner ce qui est mieux pour toi. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus tout. Celui qui nous a donné Jésus-Christ ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons reçu toute bénédiction spirituelle, Éphésiens 1:3, toute bénédiction spirituelle en Christ. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, il y a des gens qui ne deviennent pas chrétiens parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas la foi que Dieu va leur donner au-delà de ce qu'ils demandent et imaginent par celui qui habite en eux. Éphésiens chapitre 3. Hein? Ils n'ont pas les yeux ouverts sur l'héritage et la richesse que Dieu leur réserve en Jésus-Christ. Et donc, ils ne croient pas que ce que Dieu veut pour eux est meilleur que ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Le chrétien qui ne change pas ses comportements de son ancienne vie devient un chrétien qui n'a pas de différence entre lui et un non-chrétien parce que la puissance du Saint-Esprit est éteinte dans son cœur, parce que cette personne-là, elle choisit son ancienne vie et donc elle manifeste les limites de sa propre nature. Mais la personne qui dit, « Sais-tu quoi, Seigneur Jésus? Je veux te connaître. Je veux... Avant, j'allais à ce puits-là pour aller chercher de l'eau. Puis depuis que je suis chrétien, je continue à aller à ce puits-là. Puis dans ce domaine-là de ma vie, je suis pas le sel de la terre, puis je suis pas la lumière du monde non plus. Mais là, c'est là que le bas blesse. C'est là qu'on est, en tant que disciple, pareil comme le monde, parce qu'on n'a pas été dans notre faiblesse à être secouru par un plus fort que nous, un avocat, un consolateur, celui qui vient au secours de nos faiblesses pour manifester en nous la personne de son Fils, puis qu'on puisse manifester les limites de la nature de celui qui est en nous, le Saint-Esprit. Donc, c'est quoi marcher par la foi? C'est embrasser le processus de discipline, le mot le dit. Je vais finir avec ça, puis je vais vous donner la lecture pour la maison. Proverbe 3:5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Le disciple, il est discipliné. Il est discipliné, il arrive vis-à-vis sa bouteille de vin, qu'il est habitué de prendre à tous les soirs, parce qu'il a eu une journée stressante. Il regarde sa bouteille, puis il dit, la Bible, elle me dit que je peux être enivré d'autres choses que de ça, que je peux être contrôlé par quelque chose à l'intérieur qui n'est pas autre chose à part le Saint-Esprit. OK, viens et meurs. Discipline. Viens et meurs. Avant, c'était viens et vois, là, c'est viens et meurs. Tu regardes ta bouteille, tu te dis, sais-tu quoi? Quand je connaissais pas mieux, c'était parfait pour moi. C'était mon petit paradis. C'est de même que je réussis à vivre dans un paradis séparé d'avec Dieu. Ou séparé du paradis de Dieu, ce serait le meilleur temps. Mais maintenant, comme la femme au puits, je connais celui qui m'a parlé. Puis il peut me rassasier. J'aurai plus soif. Et donc, c'est une vie de discipline parce que c'est une vie de pas de dire non à quelque chose, c'est de dire oui à quelque chose pour dire non à d'autres choses. Et ce quelque chose-là, c'est quelqu'un. Colossiens 3, 1 à 5 dit, puis c'est encore 1 à 3, chercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Mais quand tu regardes la liste des choses qui sont sur la terre, c'est confronté à l'immoralité, confronté à l'avarice, confronté à l'impureté sexuelle, confronté à, tu vois, une liste de choses qui sont sur la terre. Confronté à ces choses-là, quand tu es confronté à ces choses-là, cherche les choses d'en haut. Okay? Donc, il y a cette idée de laisser mourir par attrition comme on ferait mourir un chien sans y donner sa nourriture à chaque journée jusqu'à temps que ça finisse par perdre de la puissance et de l'emprise sur moi. 2 Pierre 1:4 pour votre lecture à la maison. Il nous parle qu'on a une participation à la nature divine puis on a la parole pour fuir toute la corruption qu'il y a dans le monde. Gilles nous en a parlé au début du message de la journée. Il a dit il faut reconnaître les pièges dans le monde. La parole nous a donné avec l'esprit qui habite en nous la possibilité. On a tout ce qu'il faut pour fuir la corruption qu'il y a dans le monde. Puis Romains 6, tout le chapitre presque, au moins jusqu'au verset 23. Ça serait très intéressant que vous puissiez le lire à la lumière des 2 derniers messages qu'on vient de recevoir. Parce que dans Romains 6, il dit qu'avant la mort, le péché avait un pouvoir sur moi, mais Christ, sa mort, a eu un impact pour moi. Et le texte dit que le péché a perdu son pouvoir sur moi. Il s'est passé quelque chose quand j'ai accepté Jésus-Christ, c'est qu'il y a deux maîtres en moi, le nouveau maître, Dieu, le Saint-Esprit, l'ancien maître, qui est le péché, ma nature pécheresse, qui dit, était réduit à l'impuissance à la croix de Christ. Tout le texte, puis là, il dit, à cause de ça, laisse-les japper. Mais écoute-les plus. Laisse-les japper. Nourris-les plus. Tu as la capacité maintenant d'obéir à ton nouveau maître, qui est le Saint-Esprit qui est en toi, pour t'aider dans la faiblesse, pour que tu puisses dire comme Paul, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, car quand je suis dans la faiblesse, c'est la puissance de Christ qui repose sur moi. Mais c'est une vie de discipline, par exemple. C'est une vie de discipline, c'est une vie de connaître Dieu, c'est de croire que Dieu, ce qu'il y a pour toi, c'est bien meilleur que ce que tu veux pour toi. Puis c'est de dire, le chien, le péché, j'obéirai plus. Puis là, le texte dit, livrez vos corps, non, comme un instrument d'injustice, mais comme un instrument de justice. Donc, il y a cette idée, qu'est-ce que je fais avec mon corps à faire? Discipline. Donne-toi à celui qui veut ton bien. Donne-toi à celui qui peut te transformer à l'image de Jésus-Christ. Donne-toi pas à celui qui vivait sans Dieu avant, avec tous ses mécanismes de vie sans Dieu. Et tu vas devenir de plus en plus comme Jésus dans le monde. Puis tu vas vivre selon les limites de celui qui est en toi. Pas ta chair, mais l'Esprit qui habite en toi. Plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour l'Esprit Saint qui est un fleuve. Un fleuve dans nos cœurs qui répand l'amour de Dieu continuellement. Dans le même épître, il nous est dit qu'il n'y a rien qui nous séparera de l'amour manifesté de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que quand on a cru, tu as réglé pour toujours la question de l'habitation. Tu habites en nous. Merci aussi, Seigneur, que tu nous as donné la possibilité de marcher par la foi puis de croire, comme la femme au puits, de connaître celui qui nous parle. De te connaître, Seigneur Dieu, connaître comment tu étais bien meilleur que nous pour savoir ce qui est bon pour nous. Je te prie, Seigneur Dieu, qu'on ne soit pas comme Ésaü qui, devant un bol de soupe, a remplacé la bénédiction. Je te prie qu'on puisse être comme Salomon quand il était plus jeune, pas quand il était plus vieux. Quand il était plus jeune, puis Dieu a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je te donne? » Salomon était wise. Il a demandé la sagesse. Il a demandé la sagesse, il a demandé l'assistance de Dieu pour être capable de gérer sa vie. Puis Dieu dit, parce que tu ne m'as pas demandé la richesse, la gloire et toutes ces choses-là, je vais te donner ce que tu as demandé, mais en plus, je vais te donner toutes les autres choses. Ce qu'on croit de Dieu, c'est la chose la plus importante à propos de nous. Parce que c'est ça qui va faire quel type qu'on va devenir. Ça, c'est Tozer qui avait dit ça. La chose qu'on croit à propos de Dieu est la chose la plus importante à propos de nous-mêmes. C'est ce qui va faire que tu vas porter du fruit. Dieu n'est pas un voleur et un briseur de vie. Jésus a dit, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Puis il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Mais le mercenaire qui vient du monde l'écoute. Il est venu pour égorger, tuer, détruire. Mais le bon berger protège ses brebis, puis il veut qu'il y ait le meilleur pour eux. Rappelez-vous que tout ce que Dieu vous demande de lui donner est en sécurité. Tout ce que vous gardez n'est pas en sécurité. Donnez l'image à qui appartient l'image. Comme disait Jésus, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Et soyez abreuvés par cet esprit qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Seigneur, que ce message ce matin, Seigneur, puisse être d'inspiration, Seigneur Dieu, pour les croyants, afin qu'ils vivent cette vie d'abandon à celui qui est mort et ressuscité pour eux. On va finir avec un chant. Amen.
We'll be right back.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.